franceinter.fr.
Bonjour Alain Jouan.
Bonjour.
On commence cette revue de presse évidemment par l'hommage rendu ce matin à Shimon Peres qui vient de disparaître.
Mon rêve n'était pas d'être président, mon rêve c'était d'être berger ou poète des étoiles. Confidence de Shimon Peres en 2007, reprise à la une du journal israélien Haaretz. Ni berger, ni poète des étoiles, Shimon Peres fut de toutes les luttes politiques pour le pouvoir pendant 60 ans dans son pays. Comploteur infatigable, dira même de lui son plus vieux rival, devenu son vieux frère, Itchak Rabin. Mais ce matin, c'est avant tout évidemment l'homme de paix qui est célébré dans la presse. Shimon Peres, l'un des derniers survivants de la Fondation d'Israël, qui fit plus que n'importe qui pour mettre sur pied la puissance militaire de son pays, père du programme nucléaire israélien et qui œuvra ensuite plus que tout autre pour la paix, résume le New York Times. Le quotidien qui rappelle que c'est lui, lui seul, qui brisa le tabou de parler directement avec l'OLP d'Yasser Arafat. Lui qui permit de sortir de l'impasse. Lui qui persuada Rabin de la nécessité des accords d'Oslo. Parler avec les Arabes, imaginer la paix. Hier, un rêve. Aujourd'hui, un engagement, disait-il. Le Guardian met en ligne un beau portfolio de la longue, très longue carrière politique de Shimon Peres, passé du Labour à Kadima, de patriote, donc, comme disait Bernard Guetta il y a quelques instants, à Colombes. Photo de la fameuse poignée de main avec Arafat en 94 à Oslo, sous le regard de Rabin, tous deux co-récipiendaires du Nobel de la paix et de Bill Clinton. Photo de rêve brisé, mais hommage unanime, donc, ce matin, pour celui que Gilles Paris, dans Le Monde, définit comme le plus ancien et le moins israélien des responsables de ce pays. Cet homme cultivé, épris de littérature, parfois visionnaire et en même temps sinueux, âpre avec ses adversaires comme avec ses alliés et comme incapable finalement de résister à l'attrait du pouvoir. Un homme qui rêvait donc d'être berger mais qui fut président et Nobel de la paix.
Comment lutter contre la propagande de l'État islamique? Question souvent posée. Début de réponse ce matin.
Eh oui, s'il suffisait d'en rire. C'est le site Rue 89 qui nous présente ce matin une web-série d'animation où l'on découvre des djihadistes crétins, un chef hypocrite, parodie d'Abou Bakr el-Baghdadi, turban noir, barbe longue et Rolex au poignet qui passe son temps à jouer à Pokémon Go, et de sa femme entièrement voilée, surnommée Fleur d'Instagram, pour son amour des réseaux sociaux mais pas franchement soumise et même largement critique vis-à-vis de son époux. Ça s'appelle le Big Daddy Show, c'est réalisé par un groupe d'activistes, journalistes, écrivains, artistes, spécialistes de l'animation. Certains vivent dans les territoires contrôlés par l'État islamique. Un des auteurs a confié à Chloé Doma le sens de leur démarche. L'État islamique a mis la main sur les réseaux sociaux pour terroriser les gens, eh bien nous voulons contrer leur discours en occupant la toile avec de l'humour. Alors on y découvre dans leur quotidien un chef attablé à un festin pendant le ramadan, des soldats qui oublient de combattre, trop occupés avec leurs esclaves sexuels, ou encore des djihadistes qui surveillent l'actualité pour pouvoir revendiquer des attentats qu'ils n'ont pas commis. Vidéos sous-titrées en anglais, certaines en français, dont le but avoué est d'engager le dialogue avec les candidats au djihad dans le monde entier. Chaque épisode enregistre aujourd'hui entre 400 000 et 1 million de vues.
En France, Hélène, un amendement du gouvernement qui fait débat.
Amendement déposé aujourd'hui au Sénat en cette journée mondiale pour le droit à l'avortement. Amendement qui vise à renforcer l'arsenal législatif pour contrer les sites internet distillant sous couvert de neutralité de fausses informations sur l'avortement. Le texte précise de Laurence Rossignol est à retrouver sur le site Les Nouvelles News, mais ce matin, La Croix pose la question de la liberté d'expression. Si le gouvernement a réaffirmé qu'être hostile à l'avortement est une opinion que chacun peut exprimer librement, certains, les sites visés évidemment en premier lieu, s'insurgent et parlent déjà de délit d'opinion. Alors comment définir une présentation faussée, celle que le gouvernement reproche à ces sites de tenir dans le but de dissuader les femmes d'avorter? Au-delà de l'avortement est posée la question de l'engrenage, affirme Adrienne Charmé de la Quadrature du Net, citée par La Croix ce matin. Il est toujours délicat de sanctionner des mensonges et des allégations quand c'est l'État qui fixe la vérité. Et puis un candidat maintenant qui fait débat et qui se débat surtout ces jours-ci, Sarkozy, ses amis, ses affaires, ses emmerdes. Je pourrais vous la faire en chantant, c'est la une de Libération. Libération qui énumère les boulets qui plombent la campagne du candidat à la primaire, du livre accablant de son ex-conseiller Buisson à ses amis en difficulté comme Bernard Squarcini toujours en garde à vue, jusqu'aux sondages qui ne montrent pas tous la pleine réussite de son effet de blast. Et puis, il y a ces millions libyens qui refont surface. Enquête de Fabrice Arfi et de Karl Lask dans Mediapart qui détaille le carnet de notes laissé par l'ancien ministre du pétrole de Kadhafi. Une pièce aujourd'hui exploitée par la justice. Un petit carnet qui consigne une série de versements occultes au profit de l'ancien chef de l'État français pour au moins 6,5 millions d'euros lors de la présidentielle de 2007. Un document, nous expliquent les journalistes, qui vient briser le principal argument sarkozyste dans cette affaire, selon lequel le soupçon n'aurait été qu'une construction a posteriori du régime de Kadhafi pour se venger de la France, pays leader dans la guerre en Libye. Or, ce carnet manuscrit est bien daté de 2007. Et puis, je vous recommande la belle enquête publiée dans Le Monde cet après-midi, déjà disponible sur le site, sur les ouvriers de la République. On se plaint que ce sont toujours les mêmes qui font de la politique. Eh bien, pour que la politique change, il faut en faire, explique Emmanuel Mézeray, 15 ans à la Forge, aujourd'hui conseiller régional socialiste de Normandie. Perrine Moutarde est allée à la rencontre de ces ouvriers, souvent ex-syndicalistes, aujourd'hui élus et encore tellement minoritaires dans nos institutions. Ils ont du mal parfois avec le costume-cravate, ils sont pleins de complexes quand ils doivent prendre la parole en public devant les médias, devant ce monde nouveau qui fait preuve de tellement de mépris social. Mais tous disent leur volonté de ne pas perdre contact avec la réalité. Il y a les grands discours sur le changement, sur le renouvellement. Et puis il y a eux qui montent au front, qui y vont et qui osent se colter à la réalité.
On termine, Hélène, par des nouvelles de Philippe Lançon.
Philippe Lançon, vous le savez, grièvement blessé lors de l'attaque contre Charlie Hebdo, livre chaque semaine dans son journal la chronique de sa reconstruction. Eh bien, je ne vous en parle pas chaque semaine, mais il faut la lire chaque semaine pour tenter de mesurer ce que vivent sans doute tous ceux qui doivent se reconstruire au propre comme au figuré. Alors, c'est son visage arraché par un tir des frères Kouachi que Philippe Lançon reconstruit, lui, pas à pas. Sa chirurgienne cherche un expandeur cette semaine pour regonfler son menton. Elle hésite. Un double ? Ça le ferait ressembler à un crapaud buffle vietnamien. Ça lui plaît bien à Lançon. Mais finalement, non. On va vous faire un baladur, lui dit-elle. Adieu Rizière, bonjour Matignon. Lançon s'inquiète quand même. Dans quelle mesure ça va altérer ma vie sociale ? Mou de la chirurgienne. À mon avis, pas plus que votre visage actuel. Suis-je défiguré ? Se demande-t-il. Comment mon ancien visage vient-il fréquenter le nouveau ? Question de menton. D'être plus que de paraître. Philippe Lançon, c'est à lire dans Charlie Hebdo.
Merci beaucoup Hélène Jean pour la revue de presse.